Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette qui est là pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez C'est bon pour la santé sur Canal M. Aujourd'hui, en première partie d'émission, la COFAN, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, présente une campagne de sensibilisation, la classe d'aujourd'hui, la société de demain, ensemble pour l'inclusion. On en discute avec son directeur général, Richard Lavigne. Également, Florence Menet, qui, elle, est aux relations médias et également direction des communications à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas, sera là pour nous livrer, et elle sera là une fois par mois, donc de façon mensuelle, pour nous livrer une revue de presse, en fait, de tout ce qui est tendance en santé mentale, initiative également du côté de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Et elle nous parlera aujourd'hui plus spécifiquement de deux découvertes fortement intéressantes liées à la maladie d'Alzheimer. Tout ça dans quelques instants. Bonjour, M. Lavigne.
Bonjour.
Je le disais tout à l'heure, la COFAN lançait tout dernièrement une campagne de sensibilisation qui porte ce slogan très révélateur, « La classe d'aujourd'hui, la société de demain, ensemble pour l'inclusion ». C'est une campagne qui est soutenue par une courte vidéo de 60 secondes, une minute, qu'on peut voir sur le site de la COFAN et qui présente des élèves qui ont des limitations fonctionnelles de jeunes enfants en milieu scolaire, dont une petite fille qui vit avec un handicap visuel, et on les voit dans leur milieu, en classe régulière. Il y a également, et ça je trouvais ça très parlant, un travailleur qui, un travailleur qui est également en fauteuil roulant, donc avec limitation physique, qui explique les bénéfices que ça lui a apporté de pouvoir aller dans une école régulière. Tout d'abord, c'est quoi les objectifs de cette campagne-là?
L'objectif est d'essayer de renverser une tendance qui s'observe au Québec depuis quelques années, c'est-à-dire une diminution progressive du pourcentage de jeunes qui vont à l'école régulière.
OK.
Il y a toutes sortes de raisons qui expliquent ça. Juste pour donner un exemple, en 2011, la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, dans une campagne bien financée, ils ont un peu plus d'argent que la COFAN, eux autres, parlait contre l'inclusion d'élèves en milieu régulier et donnait une image là, assez négative et ça crée auprès de la société et des parents et des autres enfants des difficultés de reconnaissance des différences. Alors nous, la COFAN, ce qu'on veut faire, c'est d'abord qu'on veut que la loi sur l'instruction publique soit respecter l'article 235 de la loi qui dit que tout enfant doit aller dans son école de quartier ou de l'école ordinaire, mm-hmm. à moins que cela représente des contraintes excessives. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a au Québec, les commissions scolaires, malheureusement, pas toutes, mais beaucoup de commissions scolaires, ont tendance à développer leur faculté de démontrer des contraintes excessives beaucoup plus que de favoriser l'inclusion de jeunes.
Mais vous savez, ça m'étonne, M. Lavigne, parce que moi, ce que je croyais, peut-être suis-je bien naïve, c'est qu'il y avait eu réellement des progrès par rapport à l'inclusion des enfants qui vivent avec un handicap dans des milieux scolaires réguliers.
Il y a eu des progrès énormes depuis les années 70, mm-hmm. 75, mais depuis quelques années, 6-7 ans, on recule. On recule parce que, bon, on invoque le manque de ressources, on invoque souvent la complexité des limitations fonctionnelles, on invoque beaucoup de choses et souvent on est porté à trouver que ça coûte très cher et dans une période où le gouvernement veut revoir tous ses programmes, c'est là que nous, on se dit, oui, revoir les programmes, mais pas dans une perspective d'exclusion, mais dans une perspective peut-être de mieux soutenir les équipes écoles et les profs parce que
oui,
la COFAN
oui.
le dit très bien, un prof tout seul dans une classe ordinaire, dans le milieu régulier, on ne parle pas des milieux privés et autres, là, a de plus en plus de défis. On parle de diverses limitations fonctionnelles, des enfants défavorisés, tout ça. Alors, les classes ne sont plus celles qu'elles étaient dans le milieu régulier il y a 25 ans. Alors, les profs, on doit les soutenir, on doit avoir de l'aide pour l'enfant, pour le reste de la classe, pour les familles,
pour la famille,
les devoirs,
oui.
Tout ça.
Mm-hmm.
Mais je pense que pour nous, lorsque une société commence à, je dirais, mettre en présence des enfants de toutes sortes d'horizons ensemble, lorsqu'ils sont jeunes, bien, on veut pas combattre le développement de préjugés parce que les enfants vont rencontrer tous les jours des jeunes différents d'eux. Et on commence pas l'intégration comme ça à 22 ans, bang, là. Ça vient à force de rencontrer des gens différents.
Mm-hmm.
C'est un peu comme le racisme ou le sexiste. Ou, tu sais, c'est...
Mais d'ailleurs, ça me fait penser ce que vous dites, M. Lavigne. Le 2 septembre dernier, très récent, donc, dans le journal 24 heures, une dame s'exprimait, Lisa D'Amico, elle qui lance un recours collectif contre le gouvernement provincial parce que c'est une dame qui est atteinte de paralysie cérébrale, qui a tenté... d'être sur les bancs d'école, en classe régulière, parce que les milieux n'étaient pas adaptés, elle n'a pas pu le faire. Et ce qu'elle dit, c'est que plus tard dans son cheminement, en cinquième année, elle s'est fait lancer en classe régulière, mais elle n'avait jamais appris à lire, à compter, à écrire. Donc, rapidement, elle a été laissée un petit peu à elle-même. Et son recours collectif, c'est qu'en fait, elle n'a jamais pu intégrer le milieu du travail par la suite. Donc, ça me sonnait des cloches par rapport, on ne fait pas ça à 22 ans, on le fait dès le plus jeune âge.
Oui, et le problème qu'on a, je vais vous le dire, moi, je suis une personne aveugle, j'ai été scolarisé dans une école spécialisée, mm-hmm. non pas une école spéciale. Il y a une nuance à faire. Alors, c'est là aussi...
Pour quelqu'un de spécial, par exemple.
Peut-être. Ça, il faudrait voir, mais c'est que maintenant, on a tendance à, dans certains cas, à parquer les enfants qui ont des limitations fonctionnelles dans des endroits où on ne stimule pas leur apprentissage ou pour toutes sortes de raisons, là, on les scolarise. Comme la dame dont vous parlez, là, on n'y a pas montré à lire. Moi, je la connais, Mme D'Amico, c'est pas sérieux. C'est une personne qui aurait pu très bien, si elle avait été outillée, aller loin. C'est une femme super intelligente. Je l'ai rencontrée dans des rencontres. Et nous, c'est ça qu'on se dit. Il faut qu'on donne un maximum à la personne, c'est-à-dire aux jeunes et au reste de sa classe pour qu'ils comprennent la différence et qu'ils l'acceptent. Nous, la fille de ma conjointe, elle m'a connue, elle était tellement jeune que pour elle, il n'y a pas de différence que je sois aveugle ou pas. Là.
Ouais.
Parce qu'elle, pour elle, c'est quasiment normal.
Ouais. Les équipes écoles, les milieux scolaires ont reçu de quelle façon cette vidéo et l'annonce de cette campagne?
Je vais être bien honnête avec vous, on n'a pas eu beaucoup d'appels.
Okay.
On n'a pas eu beaucoup d'appels parce que on fait cette campagne-là dans un moment québécois où tout le monde attend après les décisions gouvernementales en matière de révision de programme. C'est sûr que les commissions scolaires vivent, notamment celle de Montréal et d'autres, vivent des coupures extrêmement significatives. Et je crois que les gens vont faire le possible. Je parle des professeurs, des directeurs de l'école et tout ça. C'est qu'il faut leur donner les moyens. Parce que ce qu'on n'investit pas aujourd'hui, on va le dépenser plus tard,
oui.
si on exclut des gens. Alors, il s'agit d'avoir une vision un peu plus globale et un peu plus à long terme.
Mm-hmm.
Mais malheureusement, pour toutes sortes de raisons là, liées à notre système électoral, on a trop tendance à viser le court terme. On pèle le problème plus loin. Puis je suis certain que pratiquer l'exclusion d'une partie de la population, ça va finir par coûter très cher
mm-hmm.
à la société.
Donc, pas beaucoup de résonance du point de vue des milieux scolaires, des milieux du travail. Est-ce qu'il y a eu plus de retours?
On n'a pas beaucoup de retours. Il y a au-dessus de 1000 personnes qui ont visité notre site, notre vidéo. On a fait beaucoup circuler par courriel, par Internet, l'information. Nous, on pense que c'est à moyen terme qu'on va... Il va falloir faire d'autres actions et pas juste la COFAN. Hein. Je
mm-hmm.
pense que les émissions comme vous faites aujourd'hui, puis d'autres, à Vues et Voix, l'OPHQ, les autres organismes de personnes qui ont des limitations fonctionnelles, leurs familles, je pense qu'on doit ensemble travailler sans relâche parce que c'est jamais acquis.
Ouais.
C'est jamais
ouais.
acquis. Et là, il faut combattre ce préjugé de la lourdeur parce que ça demande des défis. Mais ces défis-là sont tellement rentables à terme socialement et éventuellement économiquement parce que, pour revenir à la dame dont vous parliez tantôt, si elle travaillait, cette femme-là, aujourd'hui, elle paierait de l'impôt.
Oui.
Au lieu de recevoir du BS, elle paierait de l'impôt.
Oui. Je vous pose cette question-là parce que ce qui est très parlant dans la vidéo, et je reviens à ça, c'est le travailleur qui explique à quel point d'être inclus dans une école régulière, ça lui a permis de prendre sa place dans la société et d'avoir une profession où il se sent valorisé. Pour ces enfants-là à qui vous êtes adressé parce que vous avez rencontré des enfants, c'est quoi les avantages qui, eux, ils retirent de l'expérience en milieu scolaire, en classe régulière?
C'est que plus on est confronté jeune à la vraie vie, plus on est capable de vivre avec. Si on retarde donc l'inclusion d'un enfant dans la vraie société, il va avoir de la misère à s'adapter. Alors, c'est comme transplanter un arbre. Si on attend qu'il soit trop mature, ça va être plus difficile. Alors, les enfants, c'est sûr que c'est pas facile tout le temps. Pour les enfants, rien de facile tout le temps, de toute façon. Sauf que l'enfant et sa classe apprennent à se côtoyer, à se connaître et à accepter et voire même reconnaître les différences.
Mm-hmm.
Et c'est quelque chose... Le jeune s'en rend pas compte tout de suite. Lui, il va à l'école, il a des amis, tout ça. Mais plus tard, il va être mieux outillé. Et effectivement, le monsieur du vidéo l'a bien dit. Lui, il s'est développé comme ça. Puis lui, il est bien content aujourd'hui. Il a une job dans un milieu régulier. Il a un entourage.
Des collègues qui l'apprécient, ouais. ça, on le voit bien.
Il a commencé à cultiver ça jeune. S'il avait attendu à 25 ans, je ne suis pas sûr qu'il aurait été aussi... C'est plus difficile, en tout cas.
Mmh. Il y a un petit garçon dans la vidéo qui dit qu'il faut toujours avancer, peu importe nos différences, et que ça vienne de la bouche d'un enfant. Mmh. Oui, ça nous parle énormément. Je pense que c'est un message très porteur. Comment, d'après vous, bien sûr... on parle de souhait, on peut mieux préparer l'école. Comment on favorise l'inclusion des enfants handicapés en milieu scolaire? Comment on doit repenser l'école, Richard Lavigne?
Le problème avec l'école, c'est qu'il y en a bien, il y a les écoles privées, l'école internationale, l'école de sport. Vous savez, on divise beaucoup les jeunes, bon, c'est correct, là. C'est juste qu'à un moment donné, il faut, et dans les écoles privées, là, l'inclusion de jeunes handicapés dans les écoles privées, on n'en parle même pas, ouais. c'est sous-développé, là. Je crois qu'on doit... c'est social. On doit avoir un contrat. L'école, c'est pour tout le monde. La même école pour tout le monde, le plus possible. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'exception, là. Il faut faire attention. La COFAN ne dit pas qu'on peut inclure 100 % des élèves qui ont des limitations. Il y a des limitations qui présentent des défis peut-être un peu plus importants. Mais même pour ces enfants-là, il faudrait peut-être avoir des écoles pour leur développement, hein, et non pas pour faire un parking. Alors, je crois qu'on doit, regarder l'école comme un milieu de vie qui met en présence toutes sortes de monde ensemble. Et on doit aussi vraiment soutenir les profs, parce que c'est ça, là, nous, on est vraiment en arrière des professeurs. On ne peut pas demander à un prof de tout connaître.
On fait comment pour soutenir les profs?
On leur donne des ressources. On leur donne des ressources qui connaissent, par exemple, la déficience visuelle ou connaissent la déficience intellectuelle ou la trisomie ou l'autisme. On les accompagne, on les aide. On demande aussi peut-être un peu moins de charge de travail en classe, peut-être avoir un peu de temps pour se former, s'informer.
Du personnel d'accompagnement.
Ouais, du personnel de soutien. Ouais. Et pour l'enfant aussi, il faut trouver une façon là, qu'il puisse suivre. Puis pour les autres élèves aussi, quand les autres élèves ont des questions, il ne faut pas avoir peur de poser ces questions-là. Et pour les parents, de façon générale, tout le monde, malheureusement, tout le monde risque de devenir... une personne qui a une limitation fonctionnelle au Québec. Il n'y a personne qui peut me dire que demain, il y a zéro chance de devenir une personne qui a un handicap.
Ou d'avoir un enfant qui vit avec une limitation.
Hein? Alors, c'est de développer ce réflexe de dire le Québec est une société qui est composée de toutes sortes de citoyens avec toutes sortes de particularités et de différences. Et c'est gros ce que je dis là, mais à un moment donné, il faut commencer quelque part.
Oui, ça fait rêver en tout cas. Est-ce qu'il faut changer les objectifs de réussite de ces enfants-là?
Il faut faire attention. Les objectifs, ça dépend là, de quel type de personne on parle, mais je pense que les objectifs, peut-être pas tant que le temps qu'on donne pour les obtenir ou les soutiens qu'on reçoit.
Ouais, ouais, ouais.
À un moment donné, en secondaire 3, par exemple, il y a des objectifs pédagogiques. Il faut que les gens les atteignent. Il faut que les gens les atteignent le plus ou des comparables. Mais il n'y a pas juste... par exemple, au secondaire, des profils qu'on pourrait mettre en place pour non seulement avoir un diplôme, mais des reconnaissances de compétences, par exemple. C'est obligé d'avoir un diplôme unique, là. Il y a d'autres... puis dans d'autres pays, ils le font. Au Nouveau-Brunswick et dans d'autres pays à travers le monde, ça se fait, ça. Et au Québec, si on commence pas bien à faire ça, on a un modèle, puis il faut que tout le monde rentre dedans. C'est peut-être ça un peu le problème, notamment de nos écoles. Puis on parle des élèves qui ont des limitations fonctionnelles, mais il y en a d'autres élèves qui ont de la misère à suivre. Là.
Oui, oui. Est-ce que la COFAN s'inspire de d'autres pays ou de d'autres provinces pour cette campagne-là?
Je vais vous avouer qu'on s'est inspiré de ce qu'on pensait. De ce qu'on pensait. C'est sûr qu'on a été informé d'autres actions au Nouveau-Brunswick et ailleurs dans le monde. Mais c'est un petit budget. C'est l'OPHQ qui nous donne un petit budget pour faire ça. Mm-hmm. On les remercie d'ailleurs. Et nous, on voulait juste faire une bougie d'allumage pour espérer qu'il y aura un effet d'entraînement. Puis effectivement, nous, on a ciblé des profs, des jeunes, un travailleur, entre autres, qui viennent témoigner de leur vécu et qui pour montrer un peu que c'est faisable. L'inclusion scolaire, c'est faisable, c'est souhaitable pour la société.
Bien sûr, nous, on glissera la vidéo sur le site du Canal M. Quelles seront les suites de cette campagne-là? Il y a la vidéo qui est sortie il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui seront prises dans l'avenir?
La principale mesure qu'on va prendre, c'est d'essayer d'évaluer l'impact. Et l'autre grosse mesure, c'est de voir comment on peut trouver du financement pour une phase 2, 3 de la campagne.
OK, c'est alors, dans vos plans, ça.
C'est dans nos plans, mais lorsqu'on s'adresse à des bailleurs de fonds, je pense que vous comprenez ce qu'on se fait dire, là, hein? Coupure, mm-hmm. coupure, coupure, mm-hmm. coupure. Alors, on est dans un contexte qui va être très difficile, mais on va essayer de trouver aussi des alliés, là, soit syndicaux ou les directions d'école. On travaille là-dessus. Mais c'est pas simple parce que chacun a ses préoccupations légitimes. Il s'agit de voir comment ça peut se rencontrer tout ça ensemble.
Et tout ça pour, bien sûr, le bien-être des enfants, toujours.
Oui, et la société de demain. Hein?
Oui, il ne faut pas l'oublier. Ouais. J'espère, Richard Lavigne, que votre bougie d'allumage deviendra un beau feu de joie.
C'est ce qu'on se souhaite.
Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec et que vous étiez là pour nous parler de cette campagne de sensibilisation. La classe d'aujourd'hui, la société de demain, ensemble pour l'inclusion. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Florence Menet, bonjour.
Bonjour Marianne, ça va bien?
Ça va très bien, on se parle souvent au téléphone, c'est la première fois qu'on le fait en direct aux oreilles et au-dessus de plusieurs personnes. Je le rappelle, vous êtes aux relations médias et direction des communications de l'Institut universitaire en santé mentale Douglas et vous serez là chaque mois pour nous livrer des tendances, des nouvelles, des brèves, des initiatives aussi également sur la santé mentale et ce qui se trame, ce qui se brasse du côté de l'Institut Douglas. D'abord, c'est quoi l'Institut Douglas?
En fait, beaucoup de gens me disent qu'ils ne connaissaient pas l'Institut. Moi, j'y travaille depuis 5 mois maintenant. Et je vous avoue que ça a été une histoire d'amour, vraiment, de découvrir cet endroit merveilleux. Et là, j'exagère pas du tout, pas parce que je suis aux relations médias, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur en venant travailler ici. L'Institut universitaire en santé mentale Douglas est voué à la santé mentale de tous, sous toutes ses formes. C'est un grand hôpital, mais aussi un grand centre de recherche qui offre des services de pointe et des services de recherche de pointe également. Alors, quelques chiffres pour vous situer un peu. On a 241 lits. On compte environ 100 000 visites en service externe ici au Douglas. On a un énorme centre de recherche qui est jugé exemplaire par la communauté internationale. Et on a également plus de 60 chercheurs dans tous les domaines de la santé mentale. Puis là, je vous parle autant du sommeil que l'Alzheimer, maladie alimentaire, schizophrénie, etc. Mm-hmm. Et donc, on a des chercheurs qui sont cités un peu partout dans le monde et qui travaillent dans 33 pavillons différents. Donc, c'est très étendu, c'est dans un parc. Le site lui-même est très beau. C'est assez vieux, mais ça a un charme, à mon avis, un charme fou. Et surtout, c'est vraiment un institut qui œuvre pour la santé mentale de la population et qui tente de mettre le patient au cœur de sa mission.
Le patient et également le grand public, Florence, parce que l'Institut Douglas a beaucoup le désir de faire sortir un peu ses chercheurs, ses médecins vers le public, c'est-à-dire en créant de l'information très vulgarisée, entre autres, je pense bien sûr à l'école mini-psy, où on peut apprendre un tas de choses.
Oui, il y a beaucoup d'activités en fait au Douglas. Et si vous êtes intéressé, allez sur le site du Douglas, douglas.qc.ca. Mm-hmm. Vous verrez qu'il y a des conférences, il y a des colloques qui sont souvent ouverts au public. Il y a vraiment un effet, comme vous le dites, une volonté de créer des ponts, d'établir des ponts avec la communauté pour qu'on comprenne ce qu'est la santé mentale et que dans le fond, on a tous un petit peu la responsabilité de la prendre en main et que souvent, c'est le manque de connaissances qui fait obstacle.
Oui, oui. Donc, des blogs, des vidéos, des témoignages.
Oui,
tout
des
ça,
nouvelles
là.
Aussi sur le site, vous verrez, il y a plein de choses.
Et vous serez là justement pour nous en parler de ces nouvelles-là de façon mensuelle. Donc aujourd'hui, des découvertes qui sont liées notamment à la maladie d'Alzheimer et une nouvelle qui a retenti partout dans le monde et dont on peut être très fier parce que c'est un Québécois, Dr Jude Poirier et son équipe, donc des chercheurs d'ici, qui ont fait la découverte, une découverte majeure qui pourrait révolutionner la lutte contre l'Alzheimer, c'est la découverte d'un gène protecteur, c'est ça?
Oui, en fait, pour vous remettre un petit peu en perspective, Jude Poirier, il y a 20 ans, avait déjà fait une découverte importante sur les risques associés à l'Alzheimer. Okay? Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît bien au Québec, qui a été nommé personnalité de l'année, qui a eu donc des tas de récompenses. Et là, en juin dernier, là, je remonte un petit peu en arrière, puisque c'est ma première intervention avec vous, mais alors qu'il était à la conférence de Copenhague sur la maladie d'Alzheimer, Jude Poirier a révélé ses travaux, ses 8 ans de travaux avec une équipe substantielle quand même, qu'il a mené sur 3 bassins de population, dont un bassin québécois. Et ce qu'il a trouvé, c'est pas mal extraordinaire. En fait, il a identifié le rôle protecteur d'une variante génétique, une variante génétique qui est assez courante dans la population générale. C'est pas un truc inhabituel. Et cette variante, comme l'a constaté sa recherche, permet de retarder chez ceux qui la portent, qui en sont porteurs, le déclenchement de l'Alzheimer. Et ça, ça peut être retardé de jusqu'à 5 ans. Alors, quand on sait que l'Alzheimer, ça commence souvent autour de 70, 75 ans, gagner 5 ans, là, c'est fondamental, c'est exceptionnel. Et ça ouvre beaucoup de possibilités thérapeutiques également. Alors ça, cette découverte-là, dont on a parlé beaucoup, a été reprise, je dois dire, dans tous les médias, du Nouvel Observateur au Globe and Mail, et bien sûr ici, largement. Ce qui fait que la presse a nommé Dr Poirier également personnalité de la semaine en juin à ce moment-là. Donc cette nouvelle-là, je dois dire qu'elle est importante parce que l'Alzheimer, ça va être le fléau de l'avenir avec une population vieillissante. Et jusqu'à présent, on avait des avenues, on essayait de voir un peu quels étaient les facteurs qui déclenchaient l'Alzheimer, si vous voulez. Et lui a pris un peu le parti pris inverse. Qu'est-ce qui protège? Est-ce qu'il y a des gens qui sont protégés de l'Alzheimer? Et ça, c'est vraiment une avenue intéressante qui semble vraiment porter fruit.
Et ce qu'on apprend également, d'après tout ce qu'on a pu lire là, suite à cette nouvelle-là, c'est qu'est-ce qui est préoccupant, c'est que l'Alzheimer, ça coûte très cher, 604 milliards de dollars par année à l'échelle mondiale. Et juste au Québec, 2,5 milliards de dollars qui sont dépensés chaque année en soins directs et indirects pour aider 120 000, 130 000 personnes atteintes de la maladie ici au Québec. L'enjeu, ça sera bien sûr là, dans les mois, les années qui suivront, l'argent pour appuyer Dr Jude Poirier et son équipe. Là, parce
exactement.
Que...
On sent quand même qu'il y a une prise de conscience du fait que c'est un enjeu de société. Parce qu'au-delà du coût économique, il y a le coût humain aussi. On les voit, les gens qui viennent ici, qui ont des proches, qui ont l'Alzheimer, ça fout des vies en l'air, des familles entières en l'air. Mais on sent quand même que les pouvoirs publics commencent à avoir un éveil à cette question-là. Mais comme vous le dites, c'est important de le rappeler et de continuer à en parler.
Une autre nouvelle, toujours liée à la maladie d'Alzheimer, cette fois-ci de l'équipe de recherche du docteur Sylvain Williams, afin de mieux comprendre les mécanismes de la mémoire.
Oui, alors là, c'est une nouvelle très, très pointue, dont le détail est un petit peu difficile. Moi-même, je n'ai pas tout compris.
Oui, ce n'est pas simple. Moi non plus.
Mais dans le fond, grosso modo, là, c'est que dans la mémoire, c'est un ensemble de circuits neuronaux et de mécanismes dynamiques. Okay, et lui, il a réussi grâce à des hippocampes, qui est une partie importante du cerveau, cultivés in vitro par une technique que lui-même a inventée il y a déjà quelques années et qui lui a valu une reconnaissance internationale aussi. Il a montré que, contrairement à ce qu'on pensait, le flot d'activité lié à la mémoire, donc quand on pense, dans l'hippocampe, n'est pas seulement dans une seule direction, mais bien dans deux directions. Ça paraît comme ça anecdotique, mais dans le fond, on ne le savait pas. Et ça ouvre la voie à des tas de questionnements, une remise en cause de certains principes qu'on avait par rapport au fonctionnement de la mémoire. Donc c'est pointu, mais ça permet en gros de faire un pas en avant vers la connaissance d'un phénomène et d'une région du cerveau qui sont encore très, très mystérieux.
Oui, et du fonctionnement de la mémoire, mais ce que je lisais aussi, je trouvais ça complètement fascinant, de la création des souvenirs et qu'est-ce qui fait qu'on se remémore des souvenirs ou pas et de comment ça se passe là, dans notre cerveau.
Exactement. Puis ce qui est fascinant ici au Douglas, vous voyez, c'est que tous les jours, je rencontre des gens comme ça qui travaillent au cœur de notre cerveau, au cœur de ce que nous sommes, notre identité. Et franchement, je ne fais qu'effleurer la surface, mais leur travail me passionne.
Et est-ce que cette recherche du docteur Williams pourrait permettre de détecter de façon plus précoce la maladie d'Alzheimer?
On est encore loin de cela, évidemment, mais c'est un pas franchi vers la compréhension et donc une détection précoce, en effet. Mais on ne peut pas dire que la cause va être identifiée rapidement, mais c'est un pas important.
Eh bien, chapeau, Florence Menet, parce que c'était pas évident de vulgariser ces nouvelles-là. De grands chercheurs, vous l'avez bien fait. Je veux rappeler aussi à nos auditeurs que l'Institut Douglas sera ouverte dans le cadre des Journées de la culture 26, 27, 28. En fait, plutôt vos jardins, si
oui,
je me
les jardins
pas.
Sont magnifiques. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu au Douglas.
Non, j'attends l'invitation.
Eh bien, écoutez, je vous la donne officiellement. Je vous la lance. Écoutez, c'est un grand parc. Il y a des sculptures, un jardin de sculptures également. Et c'est accessible au public. Il va y avoir une fête, en effet, pour les Journées de la culture. Alors, donc, on invite les gens à venir nous voir.
26, 27, 28 septembre. Et on rappelle que pour suivre vos nouvelles, également vos blogs, vos témoignages, c'est le www.douglas.qc.ca. Je dis vos, mais plutôt celle de votre équipe de chercheurs, Florence Menet.
Merci beaucoup, Marianne.
Merci, au plaisir de se retrouver dans un mois.
OK, au revoir.
Au revoir. Florence Menet, qui, elle, est aux relations médias, direction des communications à l'Institut universitaire en santé mentale Douglas. Bien, c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle qu'on était en direct, mais que vous pouvez nous réécouter en rediffusion à 17h. Également, maintenant, Canal M est diffusé au www.canalm.org et ce, partout au Québec sur le câble et par satellite. Et si vous voulez entrer en contact avec nous, bien, il y a différents moyens de le faire. On est sur Twitter, on est également sur Facebook. Pour m'écrire, c'est le mpaquette@vuesetvoix.com. Toujours un plaisir de vous lire. Et pour vous entendre, 1-800-361-0635, c'est le poste 220. On se retrouve demain parce que maintenant, on est là 5 jours/semaine avec C'est bon pour la santé. Je remercie Martin Dupuis à la régie. C'était Marianne Paquette au micro. Portez-vous bien. Bye-bye.